Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe.
Il faut que les gens acceptent l'idée que à la rentrée, on va avoir des clusters dans les écoles. Ça va être inévitable.
Il y aura des contaminations donc à l'école. C'est ce que dit le président du conseil scientifique à une semaine de la rentrée et alors que le ministre de l'Éducation tente de rassurer les différents acteurs.
Un nouveau conseil de défense est prévu demain pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus.
Alors que la situation est préoccupante, notamment dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi parmi les supporters du PSG, fermement invités à se faire dépister après les excès d'hier soir. Des supporters qui n'ont pas pu accueillir les joueurs de retour de Lisbonne cet après-midi. La préfecture leur a interdit toute célébration et tout rassemblement.
Redressement fiscal pour Facebook, ça chauffe, 106 millions d'euros pour ne pas avoir payé ses impôts en France.
Aux États-Unis, 7 balles à bout portant dans le dos tiré par un policier blanc sur un homme noir. On sera sur place avec Xavier Yvon. Et puis un gilet pare-balles et une kalachnikov, pas vraiment la tenue habituelle pour un président. Face à la contestation, le Biélorusse Loukachenko choisit la stratégie de la terre brûlée, nous dira Didier François.
La tendance météo avec Anissa, le temps sera différent entre le nord et le sud, Anissa.
Oui, effectivement, le temps est très agité sur le quart nord-ouest avec une perturbation pluvieuse qui arrive demain matin. Dans le sud, le Mistral qui souffle actuellement très fort jusqu'à 80 km/h va se calmer, mais attention, le Mistral attise un incendie actuellement entre Martigues et Istres. Ça va se calmer dans la nuit prochaine. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans une semaine tout juste, ce sera le dernier dodo avant le retour en classe.
Et oui, comment va se passer cette rentrée scolaire 2020 ? Vraiment pas comme les autres. Enfants, parents, enseignants, directeurs d'école, personnel scolaire, tout le monde est un peu inquiet. Il y a ces mesures qu'il va falloir mettre en place. Comment ? Pendant ? Combien de temps ? Et comment faire en cas de contamination ? Le contexte est anxiogène. Le ministre de l'Éducation reçoit les différents acteurs pour tenter de les rassurer.
Écoutez le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste, membre du conseil scientifique en première ligne depuis le début de la crise. Il était l'invité de Patrick Cohen à la mi-journée.
Je pense qu'il faut que les gens acceptent l'idée qu'à la rentrée, on va avoir des clusters dans les écoles. Ça va être inévitable. Ce qui va se passer avec la rentrée scolaire, c'est s'assurer qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, effectivement, le port du masque chez les plus de 11 ans, ça me paraît une mesure qui est tout à fait logique. Les gestes, laver les mains, etc., bien sûr, et c'est le moment de l'acquérir, ce type de réflexe. Et puis, je crois qu'il serait important aussi, c'est de garder les enfants groupés par classe, par exemple, pour que si à un moment des cas apparaissent, on puisse les gérer au niveau d'une classe et pas être obligé de fermer toute une école. Parce que ça va arriver. Simplement, pour les enfants eux-mêmes, le risque est très faible. Mais le risque est pour les enseignants,
et
les pour les personnels non enseignants, puis aussi pour les familles qui vont récupérer leur enfant le soir. Donc, voilà, il faudra faire tout pour que la circulation du virus soit la moins importante dans l'école.
Le professeur Arnaud Fontanet avec Patrick Cohen à la mi-journée sur Europe 1. On évoquait à 18h la situation préoccupante dans les Bouches-du-Rhône. Le taux d'incidence y est plus élevé que partout ailleurs en France.
Et d'ailleurs, le préfet qui a pris la parole cet après-midi n'exclut pas la mise en place rapidement de mesures pour tenter d'endiguer ce rebond, comme par exemple la fermeture des bars et des restaurants après 20h. Dans le village naturiste du Cap d'Agde, dans l'Hérault, on apprend ce soir que 17 établissements, des bars et des restos resteront fermés pendant 15 jours. Le centre naturiste où les contaminations se sont multipliés. Un nouveau conseil de défense se tient justement demain. Alors Aurélie Herbemont, que faut-il en attendre ?
Eh bien disons que ce sera un conseil de défense de pré-rentrée pour faire le point sur la circulation du virus, très précisément avec un focus sur deux zones où cette circulation est particulièrement importante, Paris et les Bouches-du-Rhône que vous évoquiez à l'instant, et où un durcissement du ton est envisagé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conseil de défense compte vraiment sur les autorités locales, les maires et les préfets, pour prendre des mesures au cas par cas afin de freiner l'épidémie et éviter que le pays se retrouve débordé. Cette nouvelle réunion sera aussi l'occasion de verrouiller les protocoles sanitaires en entreprise, dans les transports, pour les manifestations culturelles ou sportives et surtout dans les établissements scolaires, vous l'évoquiez, où les masques seront obligatoires pour collégiens et lycéens. Et alors que Jean-Luc Mélenchon et même certains dans la majorité réclament la gratuité de ces masques, l'objectif de ce nouveau conseil, en fait, il est simple, faire en sorte que la rentrée se passe le mieux possible dans ces conditions si particulières, avec un impératif fixé par Emmanuel Macron. Vivre avec le virus, mais sans mettre le pays à l'arrêt, c'est toute la ligne de crête sur laquelle se trouve l'exécutif. Maintenir l'impératif de sécurité sanitaire sans mettre davantage à mal l'économie et donc l'emploi.
Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
On sait que les rassemblements en particulier dans les lieux clos sont souvent à l'origine de contaminations, d'où l'inquiétude après les regroupements de supporters hier soir lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich.
Oui, souvent sans aucun respect des gestes barrières, on a pu le constater tous. Damien Mestre, la mairie de Paris s'inquiète et demande même aux supporters de se faire dépister.
Ouais, il faut
bien comprendre que hier, ils étaient très nombreux dans les bars et les rues de Paris. Un exemple, Anton, il voulait vivre ce match devant un écran géant avec des amis et quelques bières. Il a bien conscience lui-même d'avoir pris des risques.
Il y avait zéro distanciation sociale. C'était, ils chantaient, ils dansaient, ils s'embrassaient. De temps en temps, quand ils faisaient des chants ensemble, tout le monde sautait ensemble. Et puis, on enlevait le masque pour mieux chanter. C'était vachement serré, quoi.
Rien que dans ce bar-là, il y avait des dizaines de personnes, selon Anton, et même plusieurs centaines devant, massées sur le trottoir. Et on ne parle là que d'un seul bar. Anne Swiris, chargée de la santé à la mairie de Paris, ne cache donc pas son inquiétude.
Bien sûr que je crains le cluster. Je crains même pas le cluster, je crains la multiplicité de clusters, que ce soit dans les cafés, dans les bars, ou dans les endroits où les gens étaient même à l'extérieur, mais très proches les uns des autres. Ce sont des risques réels dans une situation comme à Paris, où on est une zone de circulation active du virus.
Et la mairie invite les supporters à se faire tester à partir de mercredi seulement, le temps que le virus soit détectable. Et la ville rappelle qu'en plus des laboratoires, il y a deux centres temporaires installés à Paris-Plage, gratuits et sans rendez-vous.
Merci beaucoup Damien Mestre. Les supporters du PSG qui ont finalement renoncé ce soir à venir saluer leur équipe de retour de Lisbonne. Un rassemblement a été prévu autour du Parc des Princes. Il a été interdit, comme tout rassemblement d'ailleurs. Les bars, les restaurants sont même sommés de fermer. Un important dispositif policier est en place ce soir, alors que l'on a vu le quart des joueurs arriver tout à l'heure, mais des joueurs que ne verront malheureusement pas ses supporters assez amers.
C'est sûr que malheureusement, entre guillemets, on paye les pots cassés pour les incidents d'hier et la situation actuelle du Covid-19. Donc on ne peut que attendre et espérer que un ou deux joueurs ou peut-être le groupe viennent nous voir, mais à mon avis, c'est peine perdue.
On s'attendait à un moment de communion avec les supporters parisiens et ouais, ça a été un peu gâché, quoi. Il y a toujours des mauvaises personnes, hein. De toute façon, on est déçus aussi à cause de ça. Nous, on était là pour le Paris Saint-Germain, on n'était pas là pour faire n'importe quoi.
On est fiers quand même du parcours de nos joueurs et on reviendra l'année prochaine plus fort et aller Paris.
Des supporters déçus autour du Parc des Princes au micro européen de Cyril de la Morinerie.
On l'évoquait dans les titres, Facebook va donc devoir passer à la caisse.
Et oui, la filiale française du réseau social va payer 106 millions d'euros. Clément Le Saffre, en fait, il s'agit d'un redressement fiscal.
Oui, c'est un arriéré d'impôt sur les sociétés, plus précisément, qui correspond à la période allant de 2009 à 2018. Et c'est assez rare pour être souligné. Ce paiement faisait l'objet d'un litige avec les autorités françaises depuis plusieurs années. 106 millions, c'est une somme rondelette, mais ça reste une goutte d'eau comparée aux revenus de Facebook dans le monde. Le gouvernement rappelle régulièrement que les impôts payés par les géants du numérique en France sont trop faibles par rapport à leur poids dans l'économie. Finalement, Facebook et le fisc sont parvenus à un accord, comme Google et Amazon l'avaient fait en 2018, ainsi qu'Apple l'an dernier. Alors on n'en saura pas plus sur le pourquoi et le comment de ce paiement, puisque Bercy invoque le secret fiscal. Mais Facebook s'est tout de même fendu d'un commentaire. Nous prenons nos obligations fiscales au sérieux et nous payons les impôts que nous devons dans tous les marchés où nous opérons. C'est en tout cas ce qu'il y a sur le réseau social. Et il a même ajouté un petit bonus de transparence. Facebook a révélé avoir payé 8,5 millions d'euros d'impôts sur les sociétés rien que pour l'année 2019 en France. Et c'est tout de même 50% de plus qu'en 2018.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h10, la suite du journal d'Isabelle Millet. L'histoire qui se répète tragiquement aux États-Unis de façon vraiment dramatique une nouvelle fois, puisqu'un policier blanc a tiré hier soir à sept reprises à bout portant dans le dos d'un homme noir.
Oui, 7 balles, cela s'est passé dans le Wisconsin. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 et cette fois encore, Xavier, la scène a été filmée.
Oui, par un passant avec son téléphone portable. Et cette fois encore, les images sont glaçantes. On voit l'homme en question, Jacob Blake, entouré par des policiers blancs avec leurs armes braquées sur lui. Le père de famille noir de 29 ans ignore leurs ordres et tente de remonter dans sa voiture. Il ouvre la portière conducteur et c'est là qu'un des officiers lui tire dans le dos à bout portant. Selon les témoins, 3 des enfants de Jacob Blake étaient à l'arrière de la voiture. Ils ont donc vu leur père s'écrouler. Il a été transporté en hélicoptère à l'hôpital dans un état grave. Selon sa famille, il a été opéré et son état est désormais stabilisé. On ne sait pas encore tous les détails de l'affaire. La police dit avoir été appelée pour un incident domestique. L'avocat de la famille explique que Jacob Blake tentait de mettre fin à une dispute. Les policiers impliqués ont été mis en congé administratif. Une enquête a été ouverte. Le gouverneur du Wisconsin a très vite réagi, condamnant, je le cite, la violence excessive contre les Afro-Américains. Mais ça n'a pas calmé les habitants de la ville de Kenosha où ça s'est passé. Il y a eu des manifestations violentes la nuit dernière avec voitures brûlées et affrontements avec les forces de l'ordre.
Xavier Vaughan, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les États-Unis où Donald Trump vient, ça y est, officiellement, sans surprise, d'être investi par la Convention des Républicains en vue de la présidentielle. On suivra ça évidemment sur Europe 1 toute cette semaine avec vous, Xavier Vaughan.
La thèse de l'empoisonnement confirmée pour Alexeï Navalny.
Un empoisonnement qui pourrait même laisser des séquelles à très long terme sur son système nerveux, c'est ce que disent les médecins allemands. L'opposant russe, en tout cas, est toujours dans le coma à Berlin.
Et puis en Biélorussie, cette image totalement surréaliste, Alexandre Loukachenko, le président, une kalachnikov à la main.
Et on précise qu'il n'est pas sur un terrain de guerre hein, à ce moment-là. Il est en train d'arriver tranquillement dans sa résidence à Minsk. Le chef de l'État ne veut rien négocier alors que la mobilisation de l'opposition a encore une fois été massive hein, hier. Bonsoir Didier François.
Bonsoir.
Spécialiste des questions internationales à Europe 1 que l'on retrouvera tous les soirs désormais dans ce journal de 19h.
Avec un grand plaisir.
Alors on n'a pas d'image évidemment puisqu'on est à la radio. Racontez-nous Didier parce que c'est dingue vraiment cette scène.
Bah c'est du grand Loukachenko, hein, l'un des tout derniers dirigeants soviétiques à l'ancienne. Donc rien ne l'arrête. On le voit sortir effectivement de l'hélicoptère, arme au poing, accompagné de son fils en tenue de combat. Alors on n'entend pas ce qu'ils disent mais en fait c'est sans importance. Les images parlent d'elles-mêmes. L'heure est à la répression. C'est ça le message du chef. Il a d'ailleurs été parfaitement compris par les organes de sécurité qui se sont lancés dans une vaste rafle des opposants, à commencer par les ouvriers, avec des interventions musclées tôt ce matin contre l'usine des tracteurs de Minsk, l'un des plus gros conglomérats de la capitale et puis surtout le premier bastion de la contestation. En province aussi, les unités anti-émeutes de la police ont donné l'assaut aux mines de potasse de Saligorsk, grosse ville industrielle, parce que ce que craint par-dessus tout le régime biélorusse, c'est la paralysie de l'économie du pays. Et on n'en est pas loin. C'est ce qui explique d'ailleurs que la plupart des personnes arrêtées aujourd'hui soient membres du Conseil de coordination, la structure qui justement organise, pilote la grève.
Alors la question, est-ce que Loukachenko peut perdre son pouvoir ?
Alors en tout cas, clairement, il a perdu la confiance de son peuple. Ça ne fait strictement aucun doute. Ensuite, conserver son poste de président, ça va dépendre de la loyauté de son appareil de sécurité. Et donc, en grande partie, de la tolérance dont va faire preuve Moscou à son égard, sachant que Vladimir Poutine n'est pas un grand fan d'Alexandre Loukachenko. Donc, il ne prendra évidemment pas, a priori, le risque de le faire chuter. Mais si la crise s'aggrave et s'il lui trouve un remplaçant capable de garantir les intérêts de la Russie, bon alors là, il n'hésitera pas une seconde à le lâcher.
Et vous serez là pour nous en parler. L'œil de Didier Merci. François sur les questions internationales, c'est tous les soirs dans ce journal de 19h.
Et vous êtes sans doute nombreux, comme nous, aujourd'hui, à avoir repris le travail. On a vu les bouchons ce week-end sur les routes. Alors les vacances vous semblent déjà loin, rassurez-vous, c'est normal, ça fait ça à tout le monde. Et comme c'est vraiment très dur de rentrer de vacances, eh bien certains ont décidé de s'offrir un peu de rab.
Oui, comme ces chanceux rencontrés en gare de Marseille par Caroline Baudry.
On rentre en douceur et puis on a des tarifs un petit peu moins chers qu'hier, même si tous les trains sont complets aujourd'hui.
Au bout de la file pour monter dans le TGV, Virginie patiente avec ses valises. Après un séjour dans les Cévennes, elle devait retrouver ce matin son bureau et ses collègues à Paris. Elle les a remplacés par un crochet sur la côte.
Je peux m'octroyer un jour de plus ou de moins. J'ai eu l'opportunité du coup de rallonger d'un jour, donc je l'ai fait. On a dormi chez un ami à Marseille, fait un petit bain de mer et je reprends le TGV pour Paris.
Short, tongs, ils sont nombreux, encore en tenue de plage à sortir leurs billets. Ambiance fin de vacances, exactement ce que Bastien cherchait pour finir ses congés.
Je rentre d'un mois de vacances et de soleil. Je me suis organisé pour éviter un petit peu le bazar du déplacement massif du samedi et du dimanche.
Et pourtant, ils sont nombreux dans la gare à avoir eu la même idée. Certains cherchent encore à acheter leurs billets alors que les Marseille-Paris affichent complet. Marseille, Caroline Baudry, Europe 1.
Oui, Caroline Baudry dans le journal d'Isabelle Millet. C'était donc votre journal, Isabelle.